VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. RDC et Kinshasa, soupçonnés de vouloir organiser des élections à huis clos. Nations Unies, Afrique du Sud, Union Européenne, la République démocratique du Congo fait comprendre à ses partenaires qu'elle peut se passer de leur aide, leurs conseils et leurs remarques pour ces élections prévues dans 4 mois. Jour pour jour, le 23 décembre. Kinshasa a, par exemple, rejeté lundi la nomination de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial en RDC, annoncé par la presse, mais jamais confirmé officiellement par Pretoria. Kinshasa veut tenir les envoyés spéciaux et autres observateurs à distance d'un processus électoral qui a pour but ultime la première transition pacifique du pouvoir en RDC. Pour l'instant, le calendrier est respecté. Au jour après l'annonce du retrait du président Joseph Kabila et la désignation d'un dauphin et avant la publication vendredi de la liste provisoire des candidats. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a enregistré 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue les 7 novembre et 19 décembre prochains. Les 3 derniers chefs d'État sont en lice. Idriss Fall adjoint à Antananarivo. David Rajaon, il est directeur du think tank Yves Politica.
En 2013, Madagascar a connu une élection présidentielle et on a vu 39 candidature. Là, on est à 46 et ça vient de tomber. 10 candidats ont été invalidés. Au total, on a 36 candidats aujourd'hui. La liste officielle sera connue dimanche prochain.
Et qui sont les candidats potentiels les plus connus et les plus en vue?
Naturellement, donc, il y a les anciens présidents, 4 anciens présidents de la République qui se présentent, et également le président de l'Assemblée nationale actuelle. Ils sont très connus. En même temps, on peut dire qu'ils ont aussi les moyens de leur ambition.
Y compris notamment les 2 anciens frères ennemis, Marc Ravalomanana et Ange Rajoel.
Oui, ce sont les 2 grands prétendants, en fait, de la magistrature suprême. On peut dire qu'ils sont déjà préparés depuis longtemps. Et on remarque également que la campagne électorale a déjà bien commencé avant la date officielle.
Et il semble même que Didier Ratsirak, 81 ans, ancien président, dans la course.
Oui, et sa candidature a été retenue. L'ancien président, 81 ans, il a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus par rapport à ce qu'il veut partager, qu'il se prétend être de nouveau candidat et surtout essaye de s'imposer dans les débats politiques.
Est-ce qu'on peut dire que ces prochaines élections vont aider la Grande Île à sortir définitivement de toutes ces crises à répétition?
Pas tout à fait, parce qu'on a une crise de représentation à Madagascar qui se transforme en crise de gouvernement. La conséquence fatale, c'est la crise de développement. On peut dire aussi que cette élection est différente des élections qui se sont passées auparavant, parce qu'il y a déjà eu une crise pré-électorale au mois de juin-juillet 2018. Donc.
Les 2 opposants demandaient le départ de l'actuel président, R. Ramon Kanan.
Oui, les 2 opposants, avec une alliance, ont fait des actions pour que le départ de l'actuel. La vraie question, en fait, était sur la loi électorale, tout simplement. Hein.
Et maintenant, c'est réglé, cette loi électorale?
La loi électorale n'est pas réglée, mais l'élection va se tenir quand même.
David Rajan, directeur de think tank Yi Politica à Madagascar. Le Gabon a suspendu pour 1 an la diffusion de la chaîne publique française France 2, accusé d'avoir rediffusé un documentaire critique sur le président Ali Bongo Ondimba, et pour 1 mois, un journal d'opposition. Lors de sa première diffusion en juillet 2017, le documentaire Le Clan Bongo, une histoire française, avait créé la polémique dans ce pays d'Afrique centrale de moins de 2 millions d'habitants en proie à de graves difficultés économiques. Il dressait un portrait peu flatteur de l'actuel président Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, chef de l'État gabonais de 1967 à sa mort en 2009 et ancien pilier de la France-Afrique. Le gouvernement de Pretoria s'est offusqué jeudi d'un tweet de Donald Trump s'inquiétant des saisies de terres et de fermes en Afrique du Sud en défendant l'approche prudente et inclusive de son projet controversé de réforme agraire. Dans une de ses saillies électroniques quotidiennes, le président américain a écrit mercredi soir qu'il avait chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de se pencher sur le dossier de la terre et des meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. À l'approche des prochaines élections générales électorale en 2019, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis d'accélérer la réforme de la terre afin, selon lui, de réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid qui a officiellement pris fin en 1994. Au Zimbabwe, l'opposition a demandé hier à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Elle a dénoncé des fraudes et manipulations qui ont été aussitôt démenties par le camp du vainqueur, Morgan Guiriek.
La confrontation entre les deux camps s'est déroulée dans une salle comble et sous haute surveillance policière. Les échanges ont été retransmis en direct par la chaîne nationale. Les avocats du mouvement pour le changement démocratique ont tiré à boulets rouges sur la commission électorale, accusés d'avoir truqué les résultats. Les avocats d'Emmerson Mnangagwa ont rejeté ce qu'ils ont qualifié de dossier vide de preuves. De son côté, l'avocat de la commission électorale a plaidé le rejet pur et simple de la demande du MDC au motif qu'elle avait été déposée hors délai. Au terme d'une longue journée, les 9 juges ont donc levé l'audience et renvoyé leur décision à vendredi après-midi. Ils peuvent exiger un recomptage des voix, ordonner un nouveau scrutin ou bien confirmer les résultats.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a regretté mercredi la lenteur des négociations au Burundi entre le gouvernement et l'opposition, malgré la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas être candidat à sa succession en 2020. Dans une déclaration unanime, le Conseil a salué cette décision tout en soulignant que des progrès supplémentaires seront nécessaires pour la tenue d'élections crédibles dans 2 ans. La communauté d'Afrique de l'Est cherche à arranger un accord politique entre le gouvernement et l'opposition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h07. Crise migratoire en Méditerranée. Plus de 100 migrants ont pénétré mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière du Maroc. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Hier matin, 300 migrants ont essayé de traverser la frontière. Les forces de l'ordre marocaines ont réussi à en stopper certains, mais 116 migrants ont réussi à passer après avoir escaladé la clôture de 6 mètres de haut qui sépare l'enclave du Maroc. Pour repousser la garde civile, des migrants ont jeté sur les agents de sécurité des récipients en plastique remplis d'excréments, de sang, de chauves vives et d'acide. Des images diffusées par le journal local montrent des jeunes migrants africains fous de joie d'être en Espagne après avoir escaladé la double clôture, certains agitant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs ont des blessures aux jambes et aux mains. 5 migrants ont été conduits à l'hôpital de Ceuta. Ceuta et Melilla, 2 enclaves espagnoles, sont la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et l'Afrique.
Pékin a imposé aujourd'hui des taxes douanières sur 16 milliards de dollars de produits américains importés, contre-attaquant ainsi quelques instants après l'adoption par les États-Unis de nouvelles sanctions douanières sur le même montant de produits chinois. Ces taxes chinoises de 25% sont entrées en vigueur juste après l'imposition par Washington de nouveaux droits de douane sur 16 milliards de biens chinois importés, selon le média officiel Chine Nouvelle. Citant une administration gouvernementale, Pékin a précisé être fermement opposé et déterminé à poursuivre des représailles nécessaires dans cette nouvelle escalade du conflit commercial entre les deux puissances. Le président américain Donald Trump a rejeté mercredi toute accusation d'infraction et contredit son ancien fidèle avocat Michael Cohen, qui affirme avoir acheté à sa demande le silence de 2 maîtresses présumées. La Maison-Blanche s'est attelée à présenter un front impassible. Le président n'est pas du tout inquiet. Il sait qu'il n'a rien fait de mal et qu'il n'y a pas eu de collusion avec Moscou, a assuré sa porte-parole Sarah Sanders. Et puis des pirates informatiques ont tenté d'accéder à une base de données du Parti démocrate américain recensant des millions d'électeurs potentiels, a révélé hier la société qui a sonné l'alarme sur cette cyberattaque, rappelant l'offensive du renseignement russe pendant la présidentielle de 2016. Moins de 3 mois avant les élections législatives cruciales de mi-mandat, sur lesquelles les démocrates misent pour faire basculer la majorité au Congrès américain, l'entreprise Lookout a cette fois détecté une tentative de phishing ou un messonnage contre le Parti démocrate, ici même aux États-Unis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous et à bientôt.
cœur de l'info sur VOA Afrique.